Alors que l'on pouvait penser qu'enfin au Québec, on en était arrivé avec la récente politique bioalimentaire à un genre de contrat social à propos de l'alimentation, l'Union des producteurs agricoles estime que celui-ci, ce contrat social, reste encore à faire. Le contrat social que veut proposer l'UPA appuiera le principe de l'autonomie alimentaire. Son président, Marcel Groslot.
On annonce ce projet-là qui, nous l'espérons, là, va permettre un réel dialogue entre les consommateurs et les producteurs agricoles, les citoyens, les consommateurs et les producteurs agricoles. On parle beaucoup d'autonomie alimentaire depuis le début de la pandémie. À l'UPA, on parle de ces sujets-là depuis plusieurs années. On avait d'ailleurs déposé il y a plusieurs années une politique nationale de l'alimentation où on parlait d'autonomie alimentaire. Donc, pour nous, c'est un élément extrêmement important. Nos premiers consommateurs, les premiers clients pour nos produits, ce sont les consommateurs québécois. Les consommateurs ont des attentes, ils sont exigeants, ils ont des craintes. Il y a certaines connaissances aussi, peut-être, qui leur échappent par rapport à ce qu'est aujourd'hui la production agricole. Alors, l'idée d'établir ce dialogue-là, c'est de créer cet échange-là sur les attentes des consommateurs, leurs besoins et également permettre aux producteurs agricoles d'échanger avec les consommateurs sur les contraintes que nous vivons au niveau environnemental, entre autres au niveau des prix des marchés, au niveau des structures des marchés. On sait que les filières d'approvisionnement sont très ouvertes, les marchés sont de plus en plus mondiaux. Alors, cet échange-là, on l'espère, va permettre de créer ou d'aboutir à certaines recommandations que les consommateurs et les producteurs pourraient ensemble émettre au gouvernement du Québec, aux autorités, pour l'évolution, l'avenir de notre système agroalimentaire québécois. C'est un peu une première, je crois, de faire un exercice comme celui-là. Et pour s'assurer de l'impartialité, si je peux dire, de la démarche, on a confié ce mandat-là à l'INM.
L'Institut du Nouveau Monde a le mandat de mener la consultation. Sa directrice du développement, Mallory Flon.
Notre mission est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. On fait ça de plusieurs façons, notamment on a des programmes d'éducation à la citoyenneté, mais on accompagne également des organisations publiques ou privées pour designer, animer, opérer des exercices participatifs de différentes natures et celui-là qu'on présente aujourd'hui en est un. Donc, on a conçu une méthodologie qui est inspirée de méthodologies éprouvées là, en participation citoyenne, celle du panel citoyen et de la conférence de consensus. On a mélangé tout ça pour concevoir la démarche. C'est une démarche en 5 étapes. Donc, il y a une première étape de préparation qu'on est en train de faire pour composer 2 groupes, un groupe de citoyens et un groupe de producteurs qui vont dialoguer dans le cadre de cette démarche-là. Les grandes étapes de la démarche, donc la préparation, la composition des 2 groupes. Le lancement, c'est ce qu'on fait avec vous aujourd'hui. On rend public la démarche. Il y a un site Internet qui est disponible pour voir comment ça va se passer, avoir toute l'information. Le dialogue comme tel va se dérouler entre la mi-septembre et le début novembre. Il y a une série de rencontres Zoom, distanciation physique oblige, qui vont avoir lieu entre ces dates-là pour le dialogue entre chacun des groupes puis les groupes ensemble. Et notre objectif, c'est qu'au terme du dialogue, de l'information qu'on va produire pour donner aux participants, aux panélistes, des experts qui vont rencontrer aussi à l'intérieur de ce processus-là. Au terme de ça et à la suite d'une délibération, ils vont pouvoir formuler les éléments d'un contrat social. D'un contrat social, donc un ensemble de valeurs, de principes et de moyens pour promouvoir l'autonomie alimentaire du Québec. Donc, ce contrat social sera dévoilé au congrès de l'UPA au début décembre prochain. Donc ça, c'est les grandes étapes du processus. Comment on procède pour la sélection? On compose un groupe de 24 à 36 citoyens, puis un groupe de 24 à 36 producteurs. Pour les citoyens, on travaille avec Post Canada qui nous génère une liste de 12 000 foyers québécois selon des critères sociodémographiques mixtes, puis évidemment de répartition géographique. Et on envoie un appel de candidature à ces 12 000 foyers. Donc, c'était déjà parti en début de semaine. Les gens ont commencé à le recevoir. Dans l'appel de candidature, c'est un document là, de 6-7 pages. On présente le projet, les étapes, les résultats attendus. les dates des rencontres auxquelles les candidats doivent être libres pour pouvoir s'engager à y participer. Puis il y a une série de questions aussi sociodémographiques pour que ceux qui s'intéressent nous déposent leur candidature. Puis là, on a un formulaire en ligne pour recevoir les candidatures de ceux qui s'intéressent. Fait que sur ces 12 000 foyers québécois, on va récolter quelques centaines, vraisemblablement, de candidatures de personnes intéressées. Et là, on va, une fois qu'on a ça à l'INM, faire une deuxième ronde de sélection aléatoire pour combler nos profils de notre groupe citoyen. Donc, pour avoir un groupe avec des profils très diversifiés en termes de groupe d'âge, parité homme-femme, de répartition géographique. On pose des questions aussi sur l'occupation des gens. C'est des informations même sur leur régime alimentaire, de façon à ce qu'on puisse composer un groupe de citoyens qui est réellement diversifié et qui aura été sélectionné de manière entièrement aléatoire. Pour la composition du groupe de producteurs, c'est un peu le même principe. Comme l'UPA a la liste des 18 000 producteurs enregistrés au MAPAC, l'appel de candidature leur sera envoyé par courriel par l'UPA à ces 18 000 producteurs enregistrés. Parmi ces 18 000, on recevra quelques centaines de producteurs intéressés à participer. Et de la même façon, ils vont remplir un formulaire de candidature. Il y a des questions supplémentaires pour ce groupe-là, pour connaître le type de production, animal, végétal, est-ce qu'ils ont une certification biologique, combien d'employés, etc. Et là, on va composer à l'aide d'une deuxième sélection aléatoire un groupe de producteurs diversifiés avec des caractéristiques aussi sociodémographiques diversifiées. Donc ça, c'était pour la composition de ces deux groupes. Ensuite, comment ça se passe? On va leur envoyer, dès qu'ils sont sélectionnés, un document d'information préalable qui est préparé par l'UPA, mais aussi avec le concours d'un comité aviseur, qui sont des parties prenantes externes qu'on invite à nous conseiller sur la démarche. Donc, ce document, ça va être une base d'information commune pour faire une forme de mise à niveau d'information sur le système alimentaire québécois. Donc, les gens vont commencer avec ça. Puis ensuite, il y a une série d'8 rencontres et les citoyens et les producteurs vont passer à travers un processus de 8 rencontres d'information, de délibération. D'abord, de manière séparée, donc les citoyens vont avoir des délibérations juste entre citoyens, les producteurs entre producteurs. Ils vont rencontrer des experts à qui ils pourront poser des questions sur différents enjeux. Ils vont les rencontrer ensemble, ils vont avoir les mêmes présentations d'experts. Puis à la suite, ils vont délibérer chacun de leur bord, puis ensemble, pour convenir des éléments de ce que pourrait être un contrat social entre les citoyens et les producteurs du Québec.
L'Union des producteurs agricoles était du nombre des groupes qui, au moment de la dernière élection générale au Québec, disaient que les consultations multipliées au cours des années précédentes suffisaient et qu'il fallait maintenant accoucher d'une stratégie, d'une politique guidant l'agroalimentaire québécois et donc qu'il fallait garder le schéma de politique bioalimentaire avancé par le gouvernement libéral. Et dans les consultations nombreuses, on avait impliqué les milieux de la santé et les groupes de consommateurs. Il faut croire que cela n'était pas suffisant pour l'UPA, dont le président admet que le contexte de la pandémie a encouragé la nouvelle démarche.
C'est sûr que les appels de M. Legault pendant la pandémie ont eu un impact sur le comportement des consommateurs, puis ça a permis de sensibiliser davantage les consommateurs à l'importance de développer notre sécurité alimentaire, que ça ne repose pas uniquement sur des échanges internationaux. Nous, à l'UPA, on fait la promotion de l'achat local, de l'approvisionnement local depuis plusieurs années. Alors, c'est sûr qu'on maintenant, on utilise l'engouement des consommateurs pour l'approvisionnement local et leur sensibilité par rapport à l'autonomie alimentaire pour lancer ce projet-là. Alors, il y a une combinaison des deux phénomènes. Puis, un peu comme on le fait avec notre application « Mangeons local plus que jamais », nous, puis je l'ai dit depuis déjà plusieurs semaines, nous, l'élan que les Québécois ont démontré, on veut en profiter, on veut la développer pour s'assurer qu'elle demeure. Alors oui, ce projet-là s'inscrit dans cette nouvelle, pas nouvelle, mais plus forte tendance que démontrent les consommateurs ou leur intérêt plus fort vers les produits québécois. Mais c'était déjà là, c'était présent avant la pandémie, cette volonté de s'approvisionner davantage local.
Mais il y aura forcément répétition de tout ce qui a été dit et redit depuis 10 ans, même davantage. On veut un pacte agriculteur-consommateur, mais on tiendra compte des positions de tous les joueurs de l'agroalimentaire. Marcel Groslot et Mallory Flon.
On est très conscient que la filière agroalimentaire, ce n'est pas uniquement les producteurs et les consommateurs. Il y a les transformateurs, il y a les transporteurs d'intrants, il y a les vendeurs d'équipements, il y a les distributeurs alimentaires, il y a la restauration. Alors, c'est sûr que dans la discussion qu'auront les deux groupes, on se penchera sur leur rôle également, ces différents maillons de la filière agroalimentaire. Et ils auront l'occasion aussi de participer en tant qu'experts à donner ou améliorer la connaissance de l'un et l'autre groupe pour que le contrat social tienne compte de leur réalité.
Je pourrais ajouter que le contrat social tel qu'il sera écrit au terme de cet exercice-là, ce n'est pas un point d'arrêt. C'est un texte, un contenu qui, on le souhaite, va continuer de vivre et qui va susciter l'intérêt donc de d'autres acteurs, des acteurs gouvernementaux bien sûr, mais du grand public aussi, qui n'aura pas été un participant nécessairement actif dans la démarche, mais qui va en prendre connaissance avec intérêt puis qui va peut-être pouvoir s'y reconnaître et y adhérer en ayant suivi le raisonnement.
Une plus grande autonomie alimentaire veut-elle dire l'isolement, la réduction à son minimum de l'importation alimentaire? Un journaliste a même demandé si on n'allait pas à contre-courant.
Au contraire, on est dans le courant. La question est posée maintenant même par les gouvernements qui étaient pro-échangistes. Est-ce qu'en termes de mondialisation, on n'est pas un peu trop loin? Ou est-ce qu'on ne devrait pas même revenir sur nos pas en ce qui concerne certaines décisions qu'on a prises dans un contexte de mondialisation de l'économie et des échanges? L'Europe actuellement, en France notamment, on questionne beaucoup cette situation-là. Ici, on a un autre projet. On a une convention sur l'exception agricole et alimentaire qu'on veut faire connaître dans les prochaines semaines, prochains mois, qui a été élaborée par la faculté de droit de l'Université Laval. Moi, je crois qu'au contraire, cette démarche-là sur une plus grande autonomie alimentaire est nécessaire dans tous les pays, mais les échanges agroalimentaires mondiaux vont demeurer nécessaires pour avoir une pleine sécurité alimentaire. Parce que n'avoir comme sécurité alimentaire que le territoire du Québec, si on avait par exemple une sécheresse très importante, ça pourrait être aussi risqué que de ne dépendre que des importations. Alors, justement, dans la convention sur l'exception agricole et alimentaire qu'on propose, le commerce continue de jouer un rôle important, mais le commerce n'est pas l'objectif final. Il est un outil à la sécurité alimentaire.
J'ajouterais juste un élément. La question que vous posez, c'est une question importante puis difficile, mais qu'on va aussi poser donc aux participants au projet. Comment concilier autonomie alimentaire, commerce international? Est-ce que l'autonomie alimentaire, c'est synonyme d'autarcie, de fermeture des marchés? Peut-être pas, peut-être que oui, je ne le sais pas. On va voir quelles réponses les panélistes vont donner à cette question-là.
Ici Lionel Levac. L'UPA, avec cette nouvelle démarche de consultation, mène en fait une opération de communication. Depuis des années, le syndicat agricole multiplie les initiatives, les productions, les émissions et les événements pour établir un contact et un échange avec les citoyens consommateurs, et surtout une compréhension mutuelle. Et comme je le disais il n'y a pas si longtemps, est-ce que cette fois sera la bonne? Au revoir.